Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Cube Radio. Il connaît tous les dessous de la politique.
Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale.
Antoine Robitaille.
Là-haut sur la colline.
Là-haut sur la colline. Cube Radio.
Bon jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, la ministre responsable des institutions démocratiques, Sonia Lebel, soutient que la promesse de la CAQ de changer le mode de scrutin n'est pas totalement abandonnée, même s'il n'y aura pas de référendum comme prévu, comme promis, sur le sujet le 3 octobre 2022. Ensuite, un chercheur, Jonathan Roberge, nous explique pourquoi le Canada et le Québec auraient intérêt à sortir de leur engouement un peu béat pour l'intelligence artificielle afin d'encadrer ce nouveau domaine. Et justement, en ce domaine, c'est l'Europe qui devrait nous inspirer. Mais d'abord, c'est jeudi, on parle de politique et de droit criminel.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
C'est l'heure de nous entretenir avec notre chroniqueuse en droit criminel, Nada Boumefta. Maître Nada Boumefta, comment allez-vous?
Très bien, M. Robitaille. J'espère que vous allez bien également.
Ben oui, vous êtes en procès actuellement, Nada, un procès pour agression sexuelle. Et je me demandais, à l'ère du mouvement, moi aussi, est-ce que c'est plus difficile qu'avant d'être celle qui représente un agresseur présumé? Je sais qu'il est présumé innocent, mais qui est quand même accusé d'agression sexuelle.
Je suis effectivement en ce moment en procès dans le cadre d'un dossier où le client est accusé d'avoir agressé sexuellement une plaignante, une victime dans ce dossier-ci. C'est important de rappeler aux gens que nous sommes présumés effectivement innocents jusqu'à preuve du contraire. Je vous dirais que depuis toujours, les gens ont l'image des avocats qui représentent les agresseurs comme étant la position du méchant un peu. Mais effectivement, avec la vague hashtag MeToo et le désir aussi d'aider, de supporter plus les victimes, on voit un petit recul là, sur la preuve, la présentation d'une défense de la part des clients. Surtout qu'il y a certaines mesures aussi, M. Robitaille, qui nous obligent, nous, comme avocats, à passer par des étapes, des requêtes, des demandes, même pour permettre certaines questions en preuve à la plaignante.
Donc, ah oui.
Plusieurs étapes là, qui sont ajoutées pour protéger les victimes, mais qui ajoute un certain fardeau là, sur les épaules des accusés. Et mon rôle d'avocate, c'est de m'assurer que les questions soient posées, que ce soit autorisé au préalable, que la preuve soit bien administrée pour permettre à cet individu-là d'avoir un procès, une défense plénière et un procès juste et équitable. À la fin de la journée, je ne prône pas et je ne défends pas le geste qui a été causé. Je ne suis pas en position de plaider ce qu'on appelle par chez nous les mythes auxquels on adhère plus, c'est-à-dire que la victime, parce qu'elle a consenti une fois, consentait une autre fois, parce qu'elle était cute, elle l'a cherché. On n'est pas dans ces arguments-là du tout. Alors, on est plus dans des technicalités, par exemple, au niveau du consentement, comment les choses se sont déroulées, quels gestes ont été posés, la force qui a été utilisée, et tout ça, ben avec l'aide d'un avocat, ça permet à la personne de pouvoir mieux se défendre et de respecter aussi ses droits.
Je retiens quand même que vous dites qu'il y a comme un recul. Là, ma question, là, si c'est plus difficile qu'avant, vous dites qu'il y a quelque chose qui est plus difficile.
Oui, on sent clairement un changement d'air, un changement d'appréciation de la preuve, c'est-à-dire qu'on est beaucoup plus minutieux, on fait attention, on est à l'écoute et on veut certainement pas mettre les victimes dans des positions où on ne veut pas, par exemple, qu'elles viennent témoigner ou elles ne soient pas à l'aise de le faire. Alors oui, on le sent et on sent donc par cet effet-là de levier un changement au niveau de la position d'un accusé face à la cour. Mais en même temps, les tribunaux ont été bien formés. On a tenté de chercher, on cherche peut-être même à spécialiser les tribunaux en agression sexuelle, mais la cour reste quand même impartiale et capable de juger en fonction des faits de la culpabilité ou pas d'un individu.
C'est ça. Je remarque que dans des cas importants là, d'accusations de cet ordre-là, de ce type-là, comme Gomeschi, Roson, c'est on va toujours chercher une avocate en défense. Une avocate, c'est ça, une femme. Est-ce qu'il n'y a pas une... Est-ce qu'il n'y a pas un danger d'instrumentalisation de la femme avocate quand un tel procès surgit?
Excellente question. Je vous dirais que de mon côté, je ne le sens pas. Je ne sens pas qu'on fait un choix de texte de son avocat en fonction de la cause, mais j'ai déjà eu comme commentaire qu'effectivement, certains clients vont préférer avoir une femme au dossier parce qu'on parle là de sexe, on parle de souvent d'accouchement, voire même de d'actes complets avec une plaignante qui est elle-même une femme, mm-hmm. qui vient témoigner devant la cour. Alors, oui, est-ce que je vois une aisance de parler de ces sujets-là parce que je suis une femme et je m'adresse à une femme? Je vous dirais que oui, ça peut être un avantage et ça facilite peut-être ces discussions-là. Ce que je vois, par contre, comme différence, c'est vraiment au niveau culturel. Quand les gens ou l'accusé ou la plaignante viennent d'autres origines et mm-hmm. la façon dont on traite la sexualité est différente, ça devient difficile d'en parler, d'aller dans les détails de la cause, de parler de gestes, de parler d'éjaculation, de parler de désir. Mm-hmm. Ça devient un obstacle devant la cour. Et je voudrais peut-être en tant que femme, est-ce qu'on est plus ouverte à en discuter, c'est peut-être possible. Mais au niveau de la culture, ça, je vois vraiment une distinction. Autrement, un avocat homme ou femme peut très bien, et j'ai des collègues qui font très bien, là, faire ce travail-là de représenter des gens qui font face à la justice. Mais je voudrais que c'est plus en termes de connexion peut-être.
Il y a comme des chocs culturels.
Ça, je peux vous le confirmer avec les différents dossiers que j'ai. Les chocs culturels, on peut les voir à plusieurs niveaux, M. Robitaille. D'abord, sur en tant que tel, les gestes qui sont reprochés, le principe même de l'existence d'une agression sexuelle, par exemple dans un couple marié. Il y a certaines personnes pour qui ce n'est pas c'était pas envisageable. Ils savaient même pas que c'était quelque chose qui était possible. Alors, on part de loin. Pour d'autres, par exemple, la sexualité, il y a une certaine question de pudeur ou de tabou ou de discussion qu'on n'aura pas. Je vais pas vous parler de mes érections, de mes problèmes érectiles, par exemple. Mais à procès, ça va être important d'en parler ces détails-là. Ça va être important d'indiquer écoutez, vous avez éjaculé après combien de temps? Ça va être vraiment dans les détails. Ça va être dans les gestes. Alors, ça peut être difficile et pour une femme, de parler de ça aussi, de parler de vagin, de parler, donc de mettre les bons mots à la bonne place. Et c'est ce qu'il faut faire quand on est dans des procès d'agression sexuelle. Sinon, comment veut-on qu'un juge puisse trancher sur les faits si on reste très vague sur les éléments là, dont il est question? Mm-hmm. Alors, je vous aide de part des autres, que ce soit la victime, la présumée et l'accusé. Ça peut être difficile en interrogatoire, contre-interrogatoire, traiter tout ça. Je voudrais que c'est un des plus grands défis là, dans ce type de cause-là. Et évidemment, l'aisance de parler de tout ça devant un juge qu'on ne connaît pas, devant des individus, la couronne, ton avocate et d'autres gens qui sont dans la salle, ça demande évidemment, ça a une certaine pression et un certain stress. Ça, c'est clair.
Parlons de drogue maintenant, parce que devant, à l'étude des crédits, Simon-Jolin Barrette, le ministre de la Justice, il était questionné par Gabriel Nadeau-Dubois sur une vague de surdoses là, à Montréal. Est-ce qu'il ne faudrait pas décriminaliser toutes les drogues? Et Simon-Jolin Barrette, le ministre, a dit décriminaliser, non, mais déjudiciariser peut-être. C'est une avenue qui pourrait être envisagée éventuellement pour possession simple, notamment. Le ministère de la Justice travaille sur cette réflexion. Vous, ça vous suscite quoi comme avocate en droit criminel, cette réflexion-là, Nada?
Ben d'abord, disons au grand public, là, quel est l'état du droit actuel, rappelons-le, au Canada, en ce moment, les drogues dures, là, donc quand on parle de cocaïne et autres, sont des drogues qui sont illégales, qui sont criminalisées. Donc, si on se retrouve en possession de ces matériaux-là, de ces éléments-là qui sont cités dans une loi spécifique, là, on peut se retrouver accusé, donc criminel, vu devant la justice, pour ces gestes-là, ces possessions-là ou ce trafic-là. Maintenant, quand on parle, par exemple, du cannabis qui a été légalisé, qui est un mot complètement différent et une utilisation là du législateur, le gouvernement, d'appliquer, de créer de nouvelles lois, donc un cadre légal autour de la consommation du cannabis, par exemple, qui a été créé pour permettre une consommation, mais contrôler tant la consommation que la distribution, que les échanges, donc essayer d'éradiquer aussi un peu le marché noir, donc tous les trafiquants. Et maintenant, quand on parle, par contre, de déjudiciariser, ça, c'est différent. À ce moment-là, il y a eu accusation criminelle et par la suite, une fois qu'on est devant la justice, la cour, il y aura déjudiciarisation. Donc, on va demander que le dossier soit traité différemment, ne se retrouve pas devant les tribunaux et donc avec des possibilités de conséquences comme des antécédents judiciaires, etc. La raison étant que la réalité en ce moment avec la criminalisation de possession de drogues dures, c'est que le nombre de consommations n'est pas réduit. Les problèmes qu'on a dans la société en termes de consommation de drogue ou d'échange ou même de mort, d'overdose, demeurent présents malgré le fait qu'on accuse beaucoup les gens qui se retrouvent en position de consommation ou de possession de drogue dure.
C'est ça. Donc, ça serait une bonne chose, si je vous comprends bien, de déjudiciariser tout ce domaine.
Ben, en fait, plusieurs étapes, à mon avis, doivent être prises en compte. On parle, entre autres, là, au niveau fédéral, de décriminalisation de ça. On désire cesser toute accusation contre les gens qui se retrouvent en possession, par exemple, de certaines drogues. Et ça peut être limité aussi par le gouvernement. Ils peuvent le dire. Dépasser une certaine quantité, là, c'est passer une possession simple. On se retrouve vraiment dans une situation de trafiquant et des accusations pourraient avoir lieu, par exemple. Mais pour des possessions où les gens, c'est pour leur consommation personnelle, je suis d'avis que c'est une réflexion qu'on devrait envisager comme société, que ces changements-là pourraient effectivement aider. Il ne faut pas oublier non plus que ça stigmatise énormément et ça pousse les consommateurs en marge de la société quand on les accuse devant au criminel. Ça ajoute un poids, un fardeau, un risque également d'avoir des antécédents. Et ça fait en sorte, malheureusement, que ces gens-là se retrouvent à se cacher quand ils consomment, à se priver de soutien, à aller chercher de l'aide. On parle, entre autres, de centres d'injection là, qui avaient été établis, entre autres, par le fédéral, dont la mairesse veut également encourager ce type de
situation-là, les injections.
Oui, c'est ça, les
sites à Montréal,
pour expliquer aux gens. Oui, pour expliquer aux gens, ces sites-là permettraient aux gens qui veulent consommer ou s'injecter de le faire dans un lieu qui est premièrement sanitaire et encadré. Donc, si jamais il y a un problème, ils ont accès à des services autour d'eux. Il y a souvent des travailleurs sociaux aussi qui sont là. Et je pense que c'est plus de cette façon-là qu'on pourrait tenter d'éradiquer ou à tout le moins aider aussi ces gens-là qui souffrent souvent de dépendance, souvent de troubles mentaux ou de problèmes sociaux liés à leur famille, le travail, etc. Ils se retrouvent dans des situations malheureusement déjà bien profondes et noires. Et l'ajout d'accusations criminelles ici ne fait que les marginaliser plus encore. Et je pense que c'est une voie qu'on peut considérer, qui a été considérée d'ailleurs dans d'autres pays. Hein.
Oui.
Quand on parle au Portugal,
par exemple.
C'est complètement décriminalisé. Dans la rue, on peut voir effectivement des consommateurs. C'est... Mais ça réduit, on a vu un impact dans la société. Ça réduit la consommation des gens dans la rue, ça réduit le trafic également qui était illégal et ça a poussé les gens à aller avoir accès à des services.
De ne voir ça que par la lorgnette du criminel, ça nous empêche de voir les problèmes de santé que ça comporte.
Malheureusement, à mon avis, oui. Et on le voit là dans les dossiers qu'on a devant la cour.
Bien, merci beaucoup, Maître Boumefta. C'était très intéressant, comme d'habitude. Au revoir.
Un plaisir. À la semaine prochaine. Au revoir.
À la semaine prochaine.
Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline.
Il n'y en aura pas de référendum sur la modification du mode de scrutin au Québec, a admis la ministre responsable des institutions démocratiques, c'est Sonia Lebel. Elle est au bout du fil. Bonjour.
Bonjour, ça va bien? Oui, ben effectivement, on a établi qu'on ne serait pas en mesure de pouvoir adopter le projet de loi de 6 juin prochain, qui était malheureusement, bon, pour de bonnes raisons, mais qui était quand même l'espèce de limite qui avait été imposée par le DQ, qui soit en mesure de pouvoir... référendum étroitement pour 2022. Donc, mais c'est le constat qu'on a fait, effectivement.
C'est une promesse de la coalition Avenir Québec qui est formellement abandonnée.
Non, parce qu'on n'abandonne pas. Ce qui est au cœur de la promesse de la coalition Avenir Québec, qui est au cœur de mes travaux depuis plus de 2 ans, c'est la réforme du mode de scrutin. Moi, je crois profondément que c'est un avancement pour notre société au plan démocratique. Ça va permettre aux citoyens d'avoir un poids relatif de leur vote qui va être beaucoup plus important. Donc, c'est ça qui est au cœur de la promesse. Donc, on n'abandonne pas la réforme du mode de scrutin, mais à très court terme, compte tenu du fait qu'on est, bon, qu'il y a toutes sortes de choses sont arrivées, notamment une pandémie mondiale, ce qui est quand même pas anodin, la troisième vague, bon, on a forcé de constater qu'on n'y arrivera pas à faire l'adoption de ce projet de loi-là d'ici juin prochain pour être en mesure de faire le référendum en 2022. Ce qui veut pas dire qu'on ne bénéficie pas encore du reste de cette législature-là pour pouvoir faire adopter un projet de loi. Toutefois, on considère toujours qu'il est important de soumettre cette nouvelle façon de faire-là ultimement à l'approbation des Québécois. Mais c'est un débat qui doit se faire dans un contexte où on a tout l'espace nécessaire pour pouvoir bien l'expliquer aux gens. Hein. C'est pas compliqué quand on prend le temps de bien l'expliquer, mais c'est quand même très technique. Donc, je pense pas que dans le contexte actuel, les gens soient malheureusement très réceptifs à cette conversation. Et moi, je suis convaincue que si on veut avoir toutes les chances de notre côté que ce beau projet de société-là voit le jour, ben, je pense qu'il faut le faire dans un contexte où on peut en discuter.
Mais pour revenir à la formulation de la promesse, c'était une nouvelle loi électorale pour passer du mode de scrutin majoritaire au mode de scrutin proportionnel mixte. Chaque vote doit compter. C'était ça, la promesse. Il fallait le faire dans ce premier mandat-là.
Bien, on va. Le projet de loi a été déposé, puis je veux pas faire de la sémantique en disant on a déposé un projet de loi, on a rempli la promesse. Moi, je pense que la promesse, là, le cœur et l'esprit de cette promesse-là, c'est d'amener les citoyens vers un nouveau mode de scrutin. Bon, on le sait, avec le référendum en 2022, le mode de scrutin n'aurait de toute façon pas été applicable avant 2026. Donc, pour la prochaine élection, on serait encore sous la façon actuelle de le faire. Maintenant,
le SMUT, le fameux SMUT.
Le SMUT, oui.
Le système, c'est quoi donc? C'est quoi donc déjà?
Le système actuel, là.
Scrutin majoritaire uninominal à un tour. Voilà, le SMUT.
Exactement. Merci beaucoup.
On demeure des SMUTiens.
Je suis tellement dans mon système de proportionnel mixte maintenant que j'en oublie l'appellation du système actuel. Mais effectivement. Donc, mais par contre, ce qu'on a constaté, là, parce qu'on avait ce délai qui nous pendait au-dessus de la tête pour avoir le référendum en 2022 en même temps que l'élection. Maintenant, force est de constater que ce ne sera pas possible de le faire. Puis de toute façon, honnêtement, entre vous et moi, M. Robitaille, d'avoir cette conversation-là dans un espace où on est dans la relance économique, on est encore dans les probablement, nous l'espérons tous, plus tard que tôt, on va se sortir de la pandémie, mais encore dans les reliquats de cette pandémie mondiale qu'on aura tous vécu pendant près d'une année, je pense que pour avoir une conversation et se donner les chances d'avoir du succès dans cette conversation-là, il faut donner l'espace nécessaire pour le faire. Et moi, je suis intimement convaincue que d'avoir un référendum en 2022, dans le contexte actuel, ben, il fallait constater que ce n'était pas adéquat. Vous parlez à quelqu'un qui est convaincu que cette réforme-là, elle est positive.
Pourquoi les citoyens ne seraient pas réceptifs à discuter de ça parce qu'il y a une pandémie? Quel est le rapport ou l'empêchement lié à la pandémie?
Peut-être que je me suis mal exprimée quand je parle d'être réceptif. Là, je sais que je parle à quelqu'un dont la langue française est la force, mais ce que je veux dire, c'est que ça prend quand même un espace. Là, on va parler de relance économique. On va parler il y a des difficultés là, dans plusieurs secteurs qui ont été exacerbés par la pandémie. Je pense que il faut l'espace nécessaire pour que cette conversation-là ait lieu. Et moi, je suis convaincue qu'il y a beaucoup trop de sujets présentement qui sont prioritaires pour qu'on puisse donner à cette conversation-là, qui est une conversation essentielle, quant à moi, mais toute l'attention qu'elle mérite. Alors, c'est peut-être plus de cette façon-là que je devrais le dire. Là. C'est vrai que réceptif était tendancieux, tendait à supposer qu'il ne l'était pas à l'inverse, mais je parle d'espace pour avoir une conversation là, de façon adéquate.
Vous auriez pu scinder le projet de loi, puis dire on va faire le référendum au moins. Il me semble qu'il y aurait eu plein de moyens. Là. Il y a aussi le Parti libéral qui me dit qu'il y avait quand même du temps parlementaire pour adopter ce projet de loi-là.
Je suis un peu surprise de la réaction du Parti libéral, qui est un de ceux qui s'oppose au projet de loi. Il fait son travail d'ailleurs, mais il s'oppose au projet de loi. Et ne serait-ce que simplement les articles qui n'ont référence qu'au référendum comme tel. On parle de plus de 200 articles qui sont hautement techniques, déjà en consultation, plusieurs aspects du mécanisme référendaire qui avait été mis en place ont été discutés, à bon droit, mais ont été discutés. Donc, je vois mal comment on va réussir ou on aurait pu réussir, même dans l'hypothèse où on aurait scindé. Et moi, ce que je pense, c'est que c'est le référendum en 2022 qui n'est pas approprié, là, pour toutes les raisons que je viens de mentionner. Mm-hmm. Donc, pour nous, ce n'était pas une option. Mais ceci étant dit, on parle vraiment du très court terme, le 6 à juin. Maintenant, en septembre, quand on aura réussi à mettre, je l'espère et je le souhaite comme tous les Québécois, une très grande partie, si la tendance se maintient, de cette pandémie-là derrière nous. Je pense qu'on aura à ce moment-là tout le loisir d'examiner la suite des événements et nos options. Et moi, je continue à affirmer haut et fort qu'on veut aller de l'avant, je veux aller de l'avant, et que c'est une réforme qui est bénéfique pour les citoyens du Québec.
Alors, si je vous comprends bien, ça pourrait être une promesse électorale de faire un référendum dans un deuxième mandat de la CAQ?
Ben, moi, ce que je vous dis, c'est que je continue à penser qu'on peut faire beaucoup de travail dans cette législature-là actuelle. Je pense qu'on doit d'ores et déjà exclure le référendum en 2022 en même temps qu'élection provinciale. Et je continue à penser qu'il est important qu'ultimement ce projet de société, parce que c'est un projet de société, soit soumis à l'approbation des Québécois. Donc, on devra examiner les options pour remplir ce que je considère être des choses importantes, là.
OK. Est-ce que vous excluez de faire un référendum dans le prochain mandat ou non?
Je pense qu'on doit examiner toutes nos options. Je n'exclus rien, je ne me commets pas, okay. Je n'inclus rien. Je dis juste qu'on doit examiner toutes nos options, mais que je continue à penser qu'on doit soumettre ultimement ce projet de société-là à l'approbation des Québécois. Et je pense qu'on a un beau projet sur la table, honnêtement.
C'est drôle. J'écoute votre réponse, Sonia Lebel, puis ça me fait penser à Frank Zampino devant la commission Charbonneau. Je ne confirmerai pas non plus que je ne pourrais pas l'exclure. Hein? C'était devant vous, ça, je pense, qu'il a dit ça.
Oui, ben c'était une réponse magnifique, d'ailleurs, dans les circonstances. Je me souviens qu'elle m'avait, vous dirais, laissé sans mots.
Oui.
Je dirais que c'est un exploit, mais écoutez, non, c'est pas ça. Je pense qu'il faut se permettre d'examiner toutes nos options quand on sera, on traversera le pont, quand on sera rendu à la rivière. Présentement, le premier écueil devant nous était la date butoir du mois de juin.
Ouais.
On ne pourra pas traverser. Donc, quand on aura traversé cette session, qu'on arrivera en septembre, on pourra réexaminer toutes les options qui sont sur la table devant nous.
En terminant, vous savez ce que François Legault avait dit quand il a signé la promesse de changer le mode de scrutin en 2018, là, il avait signé une espèce d'entente avec tous les partis. Il avait dit un gouvernement qui ne respecterait pas cette volonté-là des citoyens se retrouverait en difficulté à moyen terme. Vous n'avez pas une crainte que, justement?
Mais on n'a pas l'intention de ne pas respecter cet engagement,
okay,
de réformer le mode de scrutin. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté en vue.
Ben, merci beaucoup, Sonia Lebel.
C'est un plaisir, comme toujours, merci.
Et au revoir.
Au revoir.
Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques.
Là-haut sur la colline.
En matière d'encadrement de l'intelligence artificielle, le Canada se montrerait plutôt laxiste jusqu'à maintenant. On en parle avec Jonathan Roberge, professeur à l'INRS, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements numériques. Bonjour.
Bonjour, M. Robitaille.
Alors, est-ce qu'on est laxiste, nous, par rapport à l'Europe, par exemple? Vous écrivez dans le Globe and Mail, parce que c'est ça qui m'a donné le goût de vous parler. Vous avez un texte bien intéressant dans le Globe and Mail qui s'intitule « Canada is gambling with its leadership on artificial intelligence ». Est-ce qu'on prend un risque en se privant d'une approche solide basée sur les droits?
Ben, effectivement, il y a une différence qui semble marquée entre l'approche européenne et l'approche canadienne. Ça a apparu la semaine dernière parce que temporellement, les deux démarches ont été exposées en même temps. Mais la proximité temporelle cachait assez mal la distance intellectuelle. Et les Européens, eux, ont une démarche qui est robuste, qui veut instituer un rapport de force et notamment avec les acteurs de la Silicon Valley, les acteurs américains des femmes de ce monde. Et c'est aussi une approche qui est basée sur la promotion d'un cadre qui est contraignant, qui est un cadre interventionniste dans lequel l'Union européenne veut dire « nous, on veut réguler de manière soutenue le développement de ces technologies-là ». Au Québec, au Canada, on est davantage dans une démarche on va dire hésitante, sinon complaisante, dans laquelle on avance, on recule, on essaye de fait depuis une dizaine d'années de se targuer d'être un grand leader là,
une plaque mondiale, tournante.
Une plaque tournante et un leader moral même. Et de fait, ça cache assez mal l'idée que l'hésitation, elle est perpétuelle. D'un côté, la promotion d'une industrie, et c'est vraiment ça.
Oui.
Et en parallèle, une défense franchement plus molle des citoyens. Et là, ben, ça pose la question, et c'est ce qu'on voulait adresser comme problème dans le Globe and Mail. Est-ce qu'on est en train de rater le bateau? Et poser la question, c'est un peu y répondre.
Oui, qu'est-ce qu'il faudrait bannir? Par exemple, vous parlez des apps, des applications de reconnaissance faciale, entre autres. J'ai noté ça dans votre texte, mais qu'est-ce que ce serait un environnement plus robuste, pour reprendre votre mot?
Ben, il faut dire qu'on réussira jamais à tout réguler dans le numérique, et le développement technologique est trop rapide pour qu'on ait une solution définitive. Ouais. L'approche européenne est une approche de dire on va changer le cadre législatif au fur et à mesure que les technologies vont évoluer, et à ce moment-ci, on va développer 4 niveaux de risque ou de compréhension du risque, des plus minimes, hein, qui auront besoin juste d'être dit aux utilisateurs, par exemple, jusqu'à des niveaux inacceptables qui devront être bannis. Et là, là-dessus, l'Union européenne est ferme. Il y aura des interdictions radicales, entre autres des applications qui auraient pour but de leurrer les utilisateurs. Ça peut pas être permis. Des applications qui sont du type chinois un peu, là, score social, indice de réputation numérique, sont des applications de surveillance pure et simple, ça doit être banni. Et bien sûr, le cœur de la problématique sociale aujourd'hui de l'IA, c'est pas ce qu'on nous explique. Le vrai cœur de la vie sociale de l'IA, c'est la reconnaissance faciale. Et comme disait le collègue Stark, la reconnaissance faciale, c'est le plutonium de l'IA. Là.
Ah oui?
Et les Européens.
Pourquoi? Expliquez-le à nos auditeurs rapidement. Pourquoi c'est le plutonium?
La reconnaissance faciale est ce qui permet l'intrusion des plateformes et des grands groupes technologiques dans la vie privée des gens.
Ah oui.
De fait, pervertit l'idée même de la vie privée. C'est-à-dire que vous pouvez vous balader tranquillement dans la rue et à être reconnu, associé à un profil, à votre corps défendant. Et cette idée-là qu'on est reconnu un citoyen privé dans la société tant aussi longtemps qu'on n'a pas voulu soi-même se divulguer, ben c'est ce rapport-là qui est perverti radicalement avec la reconnaissance faciale dans les centres d'achat, dans les cinémas, dans les aéroports, etc. Ça, c'est assez bien encadré dans la proposition de l'Union européenne. Encore une fois, il y aura du chemin à faire en Europe, mais cette proposition-là, elle est ferme. Au Canada, l'idée de la reconnaissance faciale est même pas sur le radar des discussions politiques. Et là, on se demande si le Conseil consultatif en IA va réussir à élaborer une position intéressante.
Votre image, pour parler de la réglementation canadienne, c'est le château de cartes. Pourquoi vous utilisez cette image?
Déjà, vous êtes pas sans savoir qu'il y a une politique québécoise et une politique canadienne,
oui,
une politique ontarienne par ailleurs. Donc déjà, il y a un niveau de complexité dans ça. L'autre chose, c'est qu'on y va de petite mesure en petite mesure. Donc, par exemple, on donne des millions pour des écosystèmes, soit celui de Montréal, soit celui de Toronto en particulier. On essaie de faire des morceaux législatifs à la pièce, à la commission de la vie privée, par exemple dans les audits du gouvernement fédéral dans l'utilisation de l'IA. Mais il n'y a pas de vision au préalable ou organisée qui ferait en sorte qu'on aurait, comme les Européens, une perspective holistique. Et c'est ça qui est problématique. C'est tant aussi longtemps qu'on n'a pas une vision de où on est et où on veut aller, il n'y aura pas une politique canadienne sérieuse dans le domaine.
Au Québec, on a mis beaucoup d'argent dans l'intelligence artificielle. Il y a comme une sorte d'engouement qui nous a aveuglés. Et un des réceptacles, de principaux réceptacles de cette aide-là, ça a été Element AI, qui est maintenant vraiment démantelé. C'est actuellement une sorte de fiasco. Qu'est-ce que ça peut être, l'intelligence artificielle au Québec après Element AI?
Ben là, aujourd'hui, on voit les acteurs en mode récupération, en mode on regarde comment on peut réorganiser l'écosystème montréalais, qui est un écosystème industriel. Là, il y a beaucoup d'emplois et des emplois de qualité dans ce domaine-là. Tout tournait un petit peu autour d'Element AI, qui était devenu la coqueluche du Canada, de fait. Et quand on parle du Canada IA, là, on parle vraiment d'une quantité restreinte de joueurs.
Oui.
Et on parle vraiment même d'une quantité restreinte d'individus. Et si vous regardez, vous passez d'une politique à l'autre et d'un écosystème à l'autre, là, c'est à peu près toujours les mêmes 10 ou 12 individus.
Oui, c'est ça.
Et dans la petite histoire du développement montréalais, de l'intelligence artificielle, ben on voit un déplacement assez soutenu, là, une forme de partenariat privé-public entre la science développée au MILA, qui est un peu un sous-produit de l'Université de Montréal, et une compagnie privée qui est fondée par un des chercheurs de l'Université de Montréal, qui est Yoshua Benjo, pour pas le nommer. Mm-hmm. Tout ça a été encensé, a été construit sur la possibilité qu'il y aurait des va-et-vient entre l'université et le domaine privé. Il y a eu un moment donné, par exemple, en 2018-2019, où on a pensé que la compagnie pourrait être la première narval canadienne, c'est-à-dire une compagnie qui...
Oui, c'est quoi une narval?
Une narval, c'est l'équivalent d'une licorne américaine. Une licorne américaine, c'est une compagnie qui vaut $1 milliard. Un narval, c'est l'équivalent, donc ce serait une compagnie canadienne qui vaudrait $1 milliard. Et les investissements ont tellement été soutenus au début de la compagnie LMII qu'on a pensé à un moment donné que ça vaudrait cette somme-là. Finalement, coup de théâtre, au mois de décembre, ça s'est vendu autour de 200 millions. Donc, on voit la marge entre l'espérance du milliard et les 200 millions réels. Et dans ça, ben, il y a eu beaucoup de brasses camarades, là, le bureau du premier ministre, la caisse de dépôt, les autres acteurs. Il y a eu un drôle de réorganisation des cartes au Québec. Et là, moi, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de vivre cette incertitude entre, d'un côté, une volonté fédérale d'arriver avec une nouvelle politique d'encadrement de l'IA, un Québec qui avait misé sur ce joueur-là et qui avait aussi, franchement, misé sur l'idée que la signature de l'IA au Québec et au Canada serait une IA éthique.
Oui.
Donc, il y avait un parallèle entre ce développement-là, ces joueurs-là, et toujours les mêmes personnages, de fait, qui se retrouvent aujourd'hui au Conseil consultatif en IA du fédéral, qui étaient autour de la déclaration de Montréal sur l'intelligence artificielle, qui sont les mêmes qui étaient souvent associés avec la grappe industrielle développée par le gouvernement du Québec. Vous voyez, c'est cette circulation des élites, donc, autour de l'IA qui cause problème, à mon sens,
parce que...
De fait, c'est pas une réelle concertation de la société et des acteurs sociaux. C'est une manière de produire du consentement et c'est une manière de rester entre soi qui fait que les acteurs sont jugés partis, là.
C'est
ça. Ça, c'est problématique.
Il y a comme une inceste.
Il y a un manque de transparence,
c'est
clairement, et on a beau dire qu'on fait de la concertation, on fait de la délibération, c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Et surtout, donc, il y a un manque de transparence qui est couplé avec une forme de difficile imputabilité.
L'impression que j'ai, Jonathan Robert, c'est qu'il y a comme eu un engouement qui nous a aveuglés face au développement de l'intelligence artificielle au Québec et au Canada, et peut-être qu'on commence à en revenir un peu de cet engouement-là. Est-ce que c'est votre impression?
Il y a eu quelque chose, effectivement, comme une volonté de faire vite et de faire grandiose, et souvent, ça arrive. Dans le domaine des plateformes et du numérique, c'est un domaine où l'économie est assez agressive, hein, si vous me passez l'expression,
oui.
Dans lequel les fusions et les acquisitions sont monnaie courante. Et donc, une compagnie québécoise comme Element soit vendue à une américaine comme ServiceNow, c'est de l'économie. À quelque part, on peut être pour ou on peut être contre le capitalisme, mais c'est pas une question morale. Ce qui est surprenant, c'est plutôt toute la construction politique autour de ça. Comment on a justifié qu'on était une plaque tournante en IA alors que c'est assez faux? Comment on a justifié qu'on était des leaders mondiaux en IA éthique alors que c'est assez faux? Parce qu'on n'a pas la capacité de réguler, mais c'est pas simplement qu'on n'a pas la capacité de réguler, c'est qu'on n'a pas la volonté même de réguler ni au gouvernement du Québec, ni au gouvernement fédéral. Vous voyez, c'est l'ensemble de ces petits et moyens manquements qui fait, au final, la différence entre l'Europe, d'un côté, qui prend le problème à bras-le-corps, qui a une démarche assumée, et un Québec et un Canada qui est plus dans une vaste hésitation autour de qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on veut faire avec l'intelligence artificielle, mm-hmm. Et tant aussi longtemps qu'on restera dans cette espèce de difficulté à se réinventer au sens du législateur, au sens d'une régulation autour de la notion de droit, autour de la notion de citoyenneté, les chances sont assez fortes qu'on reste dans une forme d'errance.
Merci beaucoup, Jonathan Roberge.
Ben, ça me fait plaisir.
Puis je renvoie au texte que vous avez publié dans le Globe and Mail, donc il y a quelques jours, avec Frédéric McKelvey de l'Université Concordia. Ça s'intitule « Canada is gambling with its leadership on artificial intelligence ». Merci encore.
Merci à vous.
Et c'est tout pour « Là-haut sur la colline » en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. C'est comme ça qu'on fait connaître l'émission. Et je vous dis à demain.
Cube Radio.